Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages. Samedi 4 mai 2019, retour des gilets jaunes sur les ronds-points. C'est quoi un peu l'objectif de la journée et pourquoi c'est important de revenir et de réinvestir les ronds-points aujourd'hui?
Alors de mon point de vue, il faut bien comprendre que le rond-point a deux utilités qui sont vraiment importantes. Le rond-point, c'est quelque part déjà, on se voit, c'est un peu comme la manif, c'est complémentaire à la manif. On se voit en tant que gilet jaune et on voit qu'on est nombreux. Ça permet donc effectivement entre nous de se voir, de discuter, de s'organiser, de se structurer. Il y a une deuxième raison à cela, qui est externe. La première était interne, la deuxième est externe. Le rond-point est un média. Je suis externe aux gilets jaunes, mais j'ai envie de les rejoindre ou de m'intéresser au mouvement parce que le journal de 20h me semble douteux, pas très loyal. Où est-ce que je peux aller les trouver? Eh bien voilà, le bureau, entre guillemets, de communication ou en interne de contact des gilets jaunes, c'est un rond-point. Donc, un citoyen externe vient nous voir, il a des informations, cette fois-ci en prise directe avec le mouvement des gilets jaunes, il voit qui nous sommes, ce que l'on fait, voir s'il a envie de prendre une part active, bah, qu'est-ce que vous faites comme action prochainement ou autre. Donc nous sommes ici, c'est un média également, le rond-point. Voilà, simplement, donc deux raisons, une en interne et une en externe. Et c'est sacrément important.
Et moi, personnellement, je pense que pour les personnes qui ont peur d'aller en manifestation avec toutes ces violences, eh ben, ils peuvent quand même se mobiliser quelque part, sans pour autant avoir peur qu'on se faire taper par la police ou les forces de l'ordre. Donc ils sont quand même mobilisés pour les gilets jaunes, sans pour autant se prendre de représailles ou d'avoir la peur d'aller en manifestation sur Paris.
Ouais.
Ou dans d'autres grandes villes.
Parce que pour moi, les manifestations, on fait des manifestations sur Paris depuis l'acte 3 et ça avance pas trop sur les manifestations. Donc je pense que c'est important de se remontrer sur les ronds-points pour que les gens voient que le mouvement n'est pas mort parce qu'ils ont tellement fermé les ronds-points qu'en fait, c'est un peu décourageant de ne pas voir de gilets jaunes. Les gens, ils se disent que le mouvement est terminé et que c'est du coup super important de revenir et qu'on nous voit.
Pour la fonction média dont voilà. Je parlais tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a une autre raison, tiens, à laquelle j'ai pas pensé, c'est que c'est bien complémentaire à la manif, aussi en termes de mode d'action. Pour le citoyen gilet jaune qui veut agir, pour certains, Paris, c'est sacrément loin. Alors que le rond-point, c'est à côté. Donc c'est la notion de proximité. Chacun, en fonction de ses moyens ou de son temps, quelqu'un peut peut-être avoir qu'une heure, deux heures ou trois heures, alors qu'elle est à Paris, c'est toute la journée. C'est quelque chose qui vous prend 10 heures jusqu'à 18 heures, quand c'est pas 22 heures. C'est pas le même budget non plus. Aller à Paris, c'est coût en essence, stationnement, transport. À le rond-point, c'est certainement plus simple. Voilà, donc c'est aussi complémentaire pour cette raison et aussi pour une question de mobilité. Il y a les moyens financiers, les moyens temporels. J'ai qu'une heure, deux heures ou toute ma journée à donner. Bah, le rond-point sera plus facile quand on n'a qu'une heure, deux heures. Et il y a les moyens humains. Je suis à mobilité réduite, en fauteuil roulant. C'est quand même beaucoup plus facile d'aller sur le rond-point que d'aller à Paris manifester sur une dizaine de kilomètres. C'est loin, voilà, pour toutes ces raisons.
Alors la reprise des ronds-points, c'est quelque chose qu'on a reçu au niveau national, de reprendre tous les ronds-points de France pour montrer notre détermination face au gouvernement et de montrer que les gilets jaunes seront toujours là et toujours présents pour défendre les droits des citoyens.
Pour montrer qu'on est là, qu'on est toujours là, à la population, malgré le temps aujourd'hui en plus.
Ben, l'objectif, moi je pensais pas qu'il y aurait du monde ici. Déjà, je suis arrivé comme ça par hasard parce que j'étais venu ici il y a déjà 2-3 mois. Bon, après, moi, je fais plein de places. J'ai fait Paris, j'ai fait Rouen. Je me déplace un peu plus peu pour prendre la température, justement. Je suis pas dans un point fixe. Ici, je suis venu deux fois il y a quelques mois quand il y avait pas mal de monde. On arrêtait les voitures et il y avait un bon feeling là. Les voitures, elles s'arrêtaient, les gens, machin, tout le monde mettait un gilet là. Regarde, ça s'est calmé. Il n'y a plus de gilets jaunes là. Il n'y a plus rien. Tout le monde, on dirait qu'on les a oubliés. Et le fait de voir du jaune, ben les gens sont contents. Moi, je me balade dans la rue, des fois, je prends l'autoroute, je vois un gilet jaune sur un arbre. Je dis, putain, c'est pas mort, tu vois, c'est encore là. Et tu te dis, bon, allez, il faut un peu, ça motive. Après, il faut qu'on se motive les uns aux autres. Et c'est un combat qui va être long, hein, à mon avis. Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de force dans l'histoire, hein, par rapport... On les taquine pas tant que ça, mais... N'empêche, Macron, il a déjà pris une claque à l'ONU. Hein. Ils ont dit, il faut te remettre, attention, là, ton peuple, ça va pas. Et c'est la première fois que ça arrive. Hein, au niveau de la République, il n'y a aucun président qui s'est fait rappeler à l'ordre par l'ONU. Hein. On l'est déjà. Et puis, ils ont fait plein de victoires, déjà, les Gilets jaunes. Hein. Ça a fait ralentir plein de choses. Hein. Des choses qui auraient pu augmenter plus vite, ou qui ont augmenté, ou qu'ils ont attendu, ou qui ne feront pas. Il y a quand même un truc qui fait face, parce qu'il n'y a aucun mouvement politique qui qui tient tête au pouvoir actuel. Hein. Il a les pleins pouvoirs. Hein. Tu vois, maintenant, Macron, il a les pleins pouvoirs. Hein. Il s'est donné cette force lui-même.
Quelles sont vos revendications après 6 mois de mobilisation?
Là, il te faut une bande enregistreuse de plusieurs gigaoctets.
on va dire les principales, ouais.
Non, pour taquiner, on va prioriser. Clairement, il y en a 3 qui reviennent beaucoup, qui sont dans l'ordre de priorité, le RIC. Il faut reprendre une partie du gouvernail de la pyramide, parce qu'on voit bien qu'en 40 ans, nos représentants, notre pseudo-élite, nous a démontré qu'elle était incapable d'œuvrer pour l'intérêt général. Mais vraiment, c'est un constat d'incompétence et d'abus de confiance manifeste. Donc le RIC. En plus, ça va à la fois nous, on prendra une partie du gouvernail, et nos élites qui voudront toujours faire le travail, on va enfin rééquilibrer les choses en mettant en contre-pouvoir. Un salarié, quand il fait mal son travail, il peut se faire virer. Eh bien, nos chers hommes politiques qui sont là pour représenter, qui sont nos employés, payés par nos impôts, s'ils font mal le travail, on les révoque. RIC, car là, et dedans, il y a le R de révoquer, notamment. Voilà, donc, on pilote, et en même temps, pour la partie sur laquelle on a une délégation de confiance à nos hommes politiques, on les révoque quand ça ne va pas. Ça, c'est la première revendication très, très importante, et c'est un vrai outil, parce qu'il y a tellement de choses à revoir sur le pays, la monnaie, enfin, même toute la gestion, donc il nous faut vraiment cet outil-là, c'est un véhicule. Point 2. On a en parallèle là-dessus tout l'aspect au niveau du côté démocratie, exemplarité de nos élites. On est encore en 1989 avec des privilégiés qui vivent sur nos impôts. Il me semble qu'un député, ça coûte pas loin de 15 000 euros quand on met tout groupé, c'est-à-dire et leur salaire, et leur avantage de changer d'ordinateur tous les ans. Mais il y a vraiment des conneries, quoi. Donc tout ça, tous ces privilèges, et il y en a partout. Et ça nous coûte horriblement cher, au-delà du coût en plus que c'est. Ça envoie un très très mauvais signal, ça floue, ça salit la démocratie. Donc ça, on en a marre des privilèges. Donc on a envie de gens qui sont payés, et une paye indexée sur des SMIC, et qui n'y vont pas parce que la soupe est bonne, qui y vont parce qu'ils le vont par altruisme en disant « Écoutez, j'étais mieux payé dans le privé, mais je veux rendre mon service à mon pays. » Eh bien ça, il faut arrêter donc avec les privilèges pour revenir à l'exemplarité et assainir tout ça. Quelque part, c'est aussi pour redorer le blason pour ceux qui veulent jouer la représentation, être une pseudo-élite, en tout cas qui veulent notre... Quelque part, tout ça, c'est fait pour eux. C'est de ressalir un petit peu, enfin, dessalir, reblanchir tout le blason et redonner des lettres de noblesse à cela. En 40 ans, on ne peut vraiment pas dire qu'ils ont été brillants. Point 2, donc. Et point 3, qui est, j'aurais presque envie de dire, pour beaucoup de gens, il compte parce que c'est l'immédiateté. C'est le côté immédiat, mais le RIC nous permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est tout ce qui est baisse sur les taxes de produits de première consommation. Ça, c'est pour le côté immédiat, parce qu'on est conscient que dans une réforme aussi structurelle que ça, qui va prendre un temps fou, il faut quand même envoyer de l'immédiateté à des gens qui sont en découvert dès le milieu du mois. Donc là, le recul de taxes ou exonération de TVA sur les produits de première nécessité qui convient de définir, tout ce qui, en fait, est incontournable pour vivre décemment, pas dans le luxe et le confort, juste décemment. Voilà, en synthèse.
Est-ce qu'il y a des choses sur les salaires, la hausse des salaires notamment?
Oui, bien sûr. Effectivement, tout ce qui est hausse de salaire, il y a un travail à faire. Mais là, c'est vrai qu'on pourrait le mettre en point 4 quelque part. Mais le point 4, ça serait la hausse des salaires. Ça va être à travers le SMIC, au niveau de la fonction publique. Mais il faut bien être conscient qu'au niveau des retraites, bien sûr.
Les handicapés.
Voilà, des aides, effectivement, pour les aides des personnes en difficulté. Mais il y a aussi un gros travail sur les entreprises privées. Et c'est pas qu'en augmentant le SMIC qu'on va toucher la masse de gens qui travaillent dans le privé. Comme on veut une action collective qui profite aux citoyens, c'est là où on voit qu'il y a un gros travail à travers le RIC d'agir. Et ça pourrait être effectivement un quatrième point en parallèle, oui, tout à fait.
Ben moi, je suis retraité de la SNCF, hein, pour ne pas me cacher. Hein, et je me bats pour mes enfants, mes petits-enfants. Et quand je vois toutes les taxes qu'on a actuellement, qui nous tombent sur le dos depuis que le gouvernement est en place, même si ça dure depuis 40 ans, mais c'est de pire en pire, c'est une dictature et il faut qu'on se batte. Quoi. Moi, je me suis battu toute ma carrière au sein de la SNCF et je me battrai jusqu'à la mort s'il le faut en étant pacifique, bien entendu.
Quelles sont vos revendications?
Oh là, alors le RIC, premier lieu, le RIC. Perso, pour moi, c'est le système qu'il faut descendre et pas du tout que Macron, voilà, c'est juste des pions. Donc si on les enlève eux, il y en aura d'autres, donc c'est vraiment le système. Et puis, j'ai envie de dire un monde meilleur, quoi. En même temps, voilà, moi, je suis écolo, je suis animaliste, je suis pas forcément que représentatif, mais la terre, l'écologie, les animaux, quoi, aussi. Tout ça, c'est un ensemble. Tout ça, ça marche ensemble.
Moi, je serais pour... de faire un référendum, oui, c'est une bonne chose. Hein. Maintenant, faut pas qu'il soit manipulé, faut que ça vienne vraiment du peuple, faut pas que ça vienne d'une organisation politique ou quoi que ce soit.
Et ce serait quoi la question à ce référendum?
la question, on refait des élections, savoir le mode de gouvernance qu'on aurait dans l'avenir. Et on est dans une autre ère, c'est fini. Un président, les machins, on veut plus. Moi, je suis pour tout mettre à plat zéro, on recommence à zéro. Et c'est le peuple qui va décider, on va élire 2000 mecs. Et vas-y, on 300 personnes ou 500 qui sont déjà bien informés. Il y en a plein qui sont informés en France. Les politiques, c'est pas eux les informés. Les mecs, c'est des branques, hein. Ils viennent de l'ENA, c'est pas les meilleurs de la classe. Hein. Tu vois, Macron, il a loupé 3 fois. Hein. Et ils lui ont filé l'ENA, je sais pas si tu suis l'histoire, mais on lui a donné son truc parce qu'il a porté plainte, ils ont pris des avocats, 70% des mecs, on leur a donné son diplôme de l'ENA, alors qu'il l'a jamais eu en fin de compte. Mais déjà, des arnaques, demandeurs de justifier d'un casier judiciaire ou quoi que ce soit, ils peuvent pas, parce que tu en as 30% qui ont des casseroles au cul, on les mettra en taule presque. Déjà, j'en veux pas des gens comme ça qui vont m'apprendre à vivre. Apprendre à vivre des gens honnêtes comme nous, mais on n'en veut pas, on veut des gens honnêtes comme nous, les mêmes, voilà, c'est tout.
C'est quoi votre état d'esprit après 6 mois de mobilisation? Tu peux répondre aussi, si tu veux.
Moi, personnellement, j'ai commencé, on va dire, vraiment à faire les manifestations la semaine dernière. J'ai participé avec... c'était l'acte combien qu'on a fait?
Ça devait être l'acte 24,
je crois.
24, oui.
Donc vous êtes fraîchement arrivé dans le mouvement, c'est ça?
Mais je suis quand même, j'étais quand même gilet jaune avant, mais je n'avais pas participé particulièrement aux manifestations ou aux ronds-points et tout ça. Mais du coup, j'ai oublié la question.
Dans quel état d'esprit vous étiez après 6 mois de mobilisation?
Pour l'instant, moi, je suis pas vraiment vieux dans... J'ai pas trop de...
Pas de recul, forcément.
Pas trop de recul par rapport à ça.
Et vous, après 6 mois de mobilisation, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui?
Ah, très bonne question. Plusieurs choses à dire. La première, c'est que certainement pas démotivé. Parce qu'il y a quand même un point qui est manifeste, c'est que depuis qu'on est gilet jaune... On était tous, alors avant d'être gilets jaunes, des citoyens révoltés, indignés de la situation de notre bon pays. Mais on se disait, on n'est pas seul, mais on ne se voit pas. Maintenant, le fait de se voir et de voir qu'on est nombreux, que tout le monde, effectivement, on est très très nombreux à avoir cette opinion-là, de constater qu'il faut être lanceur d'alerte, continuer, donc très motivé, toujours. Et j'ai envie de dire, c'est ça où on laisse crever le pays, où on livre un pays à nos enfants. C'est une expression de moi, c'est que nos aïeux ont livré un pays en plutôt bon état. On a un devoir, on devrait même avoir cette obsession de livrer à nos pays, à nos descendants, donc nos enfants, un pays au moins en aussi bon état. Donc on n'a pas le choix, il faut être motivé, il y a intérêt. Parce que c'est ça où, comme dirait le général de Gaulle, là je suis en lit. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième en parallèle, donc certainement pas démotivé, un peu agacé quand même si. Il y a certainement un agacement, voire une irritation, de voir le gouvernement que l'on a. Parce que... Je parlais certainement pas démotivé, mais cet agacement nourrit en même temps la motivation, c'est qu'on voit bien qu'on a bien affaire à un gouvernement qui est en fait une dictature de basse intensité. Donc avant on pouvait l'intellectualiser, maintenant on le vit. Le décalage dans les médias, les violences policières, nier, quand on ne les retourne pas contre nous, donc c'est nous qui sommes violents. En expliquant que nous, on est gentils, mais à force de se prendre des coups de gaz ou de tirs de flashball, le simple fait de lever un index ou un doigt levé... Un bras d'honneur, ça y est, ça peut être la prison ou effectivement la garde à vue gratuite pendant plus de 24 heures. Ouais, se faire confisquer les gilets jaunes, comme moi, je me suis fait confisquer des gants, manu militari. J'avais refusé d'obtempérer à ce qu'on me retire mes gants. Je me suis dit, non, attendez, mon droit de propriété, c'est sacré, c'est constitutionnel. Enfin bon, donc ça, irritation.
Ça a dû leur plaire, ça.
Ah bah oui, voilà. Donc là, moi, je suis un citoyen, donc je veux bien me plier et me soumettre à l'intérêt général. C'est même ma volonté. Mais à l'inverse, quand on la bafoue, c'est impensable, et encore plus nos lois, c'est pas pensable. Donc irritation, et en même temps, quelque part, ça renforce encore cette motivation. Donc c'est un peu le point 1 qu'on retrouve, mais je vais insister un peu plus sur ce point d'irritation. Irritation par rapport au gouvernement, qui en même temps nous motive d'autant plus, nous révolte, quelque part. Et aussi une irritation, je l'avoue, voire une certaine déception par rapport à une certaine partie de nos concitoyens. On est dans le même bain, on sait que beaucoup... sont sensibles et partagent le combat des gilets jaunes, mais trop peu, beaucoup trop peu, se bouge le cul, quoi, pour être très cru. Et ça, c'est quand même désagréable. Je le vis dans mon travail, je le vis un peu dans mon entourage. Ils disent, ouais, Olivier, vous avez raison, c'est super les gilets jaunes, mais qu'est-ce que t'attends pour donner 1 ou 2 heures de ton temps un samedi pour aller sur un rond-point ou sinon d'aller manifester comme nous sur Paris? On n'est pas des super-héros, hein. Et il n'est pas normal que nous, voilà, que ça soit une 500 000, 600 000, 1 million, on a été à un moment donné 1 million dehors, ou 2 millions. La France, je crois qu'on est un peu plus qu'1 ou 2 millions. Et c'est ça qui me, quelque part, est blessant. J'ai confiance dans mon concitoyen, nos compatriotes, mais ça serait quand même bien que eux-mêmes se fassent un peu violence. Faut y aller, parce que ce mouvement, il serait plus utile si tout le monde avait joué le jeu. Vraiment, X millions en fait. Ça ferait longtemps que le gouvernement aurait cédé 3, 4, 5 millions dans la rue.
Au moins remettre les gilets jaunes sur les voitures. Ouais. Parce que moi je me dis que même si on manifeste pas, les gens râlent à propos des manifestations, que ça bloque le pays et que c'est très embêtant tous les samedis. Mais les gens mettraient leur gilet jaune sur leur pare-brise, même rien que le samedi, au lieu d'aller manifester. Je pense que les renseignements généraux, ils donneraient l'information plus haut. Ils diraient attention, ça commence à bouger en France, les gens ils ont remis leur gilet. Et voilà, moi on a toujours laissé le gilet jaune, on n'a jamais eu de soucis de contravention ou quoi que ce soit. Donc faut que les gens ils fassent au moins ce geste-là pour montrer qu'ils soutiennent. Parce que c'est trop facile de dire on soutient et on voit rien quoi, à côté. Ça c'est dommage.
Dans quel état d'esprit vous êtes après 6 mois de mobilisation avec les gilets jaunes, sur les ronds-points, en manifestation, voilà. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui?
Disons que nous on est toujours déterminés, même si on nous propose des anarchistes par rapport à ce que peut dire le gouvernement. Mais ce n'est pas vrai, déjà pour commencer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on est toujours là, c'est que moi je vois la misère. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Moi j'ai des gens qui sont avec nous ce midi, qui n'ont pas les moyens de manger avec nous. On a fait des courses en fonction des revenus de chacun. On essaye d'aider nos amis qui n'ont même pas 5 euros à sortir pour acheter à manger. Donc c'est grave, c'est grave. On en arrive à un point où il faut se battre et c'est pas en restant dans son fauteuil, dans son canapé. Les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. C'est ça malheureusement. Tous les accidentés, les blessés, les matraqués, c'est tous les week-ends et on ne le montre pas dans les médias.
Encore plus en colère. Encore plus en colère. De tout ce qui se passe, de tout ce qu'ils font croire aux gens qui ne sont pas dans les mouvements, dans les manifs, tout ce qui se passe à la télé, on n'en voit même pas un dixième. Quoi. De faire croire. Moi, quand j'entends Castaner ou etc. dire ceux qui sont aujourd'hui en train de manifester, c'est les ultras. Putain, voilà, j'ai l'air vachement ultra, moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça me met en colère. C'est pas vrai, c'est toujours les mêmes. Et avec des vraies revendications, toujours. Quand ils disent qu'ils n'ont rien à demander, ils veulent juste casser, c'est archi faux. C'est pas vrai.
Moi, je suis peut-être encore plus motivé qu'au début. Non, j'étais motivé, moi, déjà avant, mais je sais que le mouvement, il va pas s'arrêter. Et puis, il y a des hauts et des bas. Et puis, moi, je suis pas là tous les week-ends non plus. J'ai une vie de famille. Et je suis dans un esprit qu'on a gagné, quoi. On a gagné. Maintenant, la mayonnaise a pris. Maintenant, les gens, il faut qu'ils bougent leur cul. Maintenant, il faut sortir. T'as le général Tauzin, là. Je sais pas si t'as entendu. Il était aux élections présidentielles il y a 2 ans avec Macron. Là, il a lancé un appel au peuple français, général, le mec, il a la larme à l'œil quand il dit ça, la France elle est en piteux état, il faut la sauver, les citoyens sont en perdition, il y a un gros problème avec la gouvernance, et il a dit maintenant le devoir des citoyens, des Français, il faut qu'ils sortent dans la rue, il faut aider les gilets jaunes, il faut sortir. Et le mec il a dit ça, il a pris des risques. Et lui, je pense que tu en entendras parler encore, général.
Qu'est-ce qui a changé depuis le début du mouvement?
Waouh.
Rien du tout.
Qu'est-ce qui a changé au niveau politique, au niveau quoi?
Peut-être votre investissement aussi dans le mouvement, votre regard sur lui. Enfin voilà, comment vous l'avez vu changer ce mouvement?
La solidarité, je pense, c'est ce qui ressort le plus. Les gens qui sont encore plus. Beaucoup de gens qui ont peur de venir maintenant, mais ceux qui ont. Enfin moi je sais que j'ai peur, mais voilà, je suis là. Et, enfin les gens la détermination. C'est tout ce qui s'est passé, putain, on a tenu plus de 5 mois, quoi. Dans le froid, dans la pluie, dans tenir les ronds-points, dans les manifs, à se prendre des gaz à chaque fois. Et donc, on peut pas lâcher avec tout ce qui s'est passé, c'est pas possible.
Qu'est-ce qui a changé depuis le début du mouvement?
Je pense que ceux qui sont restés sont un petit peu plus déterminés que les autres. Les autres sont toujours sympathisants, mais ils ont un petit peu peur de la répression policière, je pense.
Qu'est-ce qui a changé depuis le début du mouvement?
Je pense que les gens ils parlent plus facilement, ils vont se dire des trucs qu'ils ne disaient pas avant, il y a plus de complicité, il y a plus de trucs. Moi je suis tombé en panne d'essence, tu vois, pour dire, j'avais un gilet jaune sur le truc. Je tombe en panne d'essence sur l'autoroute, hop, je me suis garé et tout, je remets de l'essence. Arrivé un moment, j'ai mis de l'essence, mais j'étais tellement arrivé au bout, il fallait que j'amorce, j'étais à la pompe. Et j'ai ouvert le capot et un mec qui est tout de suite venu, tu vois, il dit ouais, vas-y, on va amorcer machin. Une autre femme qui passait par là, tu vois, est-ce que j'avais le gilet jaune peut-être? Et une autre femme qui était en train de mettre l'essence, vous voulez un coup de problème de batterie, j'ai des pinces, machin. Trois personnes, j'ai rien demandé. En cinq minutes, trois personnes sont venues me donner un coup de main comme ça. Alors qu'avant, tu disais, hey, t'as du violet, vous pouvez m'aider. Les gens sont venus spontanés comme ça. Je dis, non, ça va, je veux, oui, je pense que c'est ça. Les gens sont venus comme ça. Et je te parle de ça il y a deux mois et demi, quoi. Et c'est un truc que, bah, est-ce que les gens sont plus ouverts à l'autre, quoi, peut-être. Il y a une conscience qu'on est tous un, en fin de compte. Parce que... ce que tu vis, l'autre il vit, on est ensemble. Tu fais du bien à l'autre, tu vas te faire du bien. Hein. C'est un échange. Hein.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, pour l'avenir de quoi vous auriez envie?
C'est compliqué, il faut que je réfléchisse.
Bah, que les gens réagissent plus, justement, qu'ils remettent aussi, qu'ils montrent, qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et qui remettent les gilets sur leur pare-brise, au moins montrer leur soutien. C'est une autre façon de faire. Quand on est en manifestation, quand on revient, il y a des gens qui sont avec nous, qui vont le dire, mais il y en a d'autres qui disent « Vous commencez vraiment à nous faire suer, il faut que vous arrêtiez. » Alors, dans ces cas-là, on leur demande « Quels moyens on peut avoir ?» Parce que moi, je ne suis pas pour bloquer non plus les gens, le pays, bloquer les raffineries, que plus personne puisse aller travailler. Là, on embête tout le monde. Mais alors, c'est aussi à eux d'agir. Et je pense que ça, c'était un bon moyen au départ de se reconnaître et de dire « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. » on en est de plus en plus conscient. Et justement, je pense que ça passe aussi par là.
La question, c'était qu'est-ce que vous pourriez... de quoi vous auriez envie ou comment vous voyez la suite? Qu'est-ce que vous pourriez espérer?
Alors là, c'est extrêmement simple. Je vais immédiatement dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure. Nos concitoyens, effectivement, français, et même à travers le monde, mais on va rester déjà sur la France, restons modestes, qui mettent simplement leur gilet jaune sur le pare-brise, que tous fassent un acte. Un acte, au moins minimal, qui est de mettre le gilet jaune sur le pare-brise, voire mieux, passe une heure ou deux sur un rond-point, ou aille en manif, mais à minima, vraiment à minima, le gilet jaune sur le pare-brise, pour que ça soit pas qu'un sondage abstrait de 70%, que ça soit visuel. Il n'y a rien de mieux que l'image, il n'y a rien de mieux que l'acte.
Et là on en revient au départ du mouvement et de la symbolique de mettre un gilet jaune,
oui.
L'instrument d'être visible, notamment en cas d'urgence, en cas d'accident. La symbolique est juste géniale. Je pense que c'est aussi là une... Là, je donne un peu mon avis, mais je pense que c'est aussi là la force du mouvement qu'elle a eue. C'était de choisir symboliquement une insigne visible et connue et qu'on avait tous à portée de main, c'est-à-dire le gilet jaune qu'on avait obligatoirement dans la voiture. C'était,
oui.
C'était une loi.
Bah, c'est à la fois génial d'un point de vue d'ironie comme de métaphore. C'est du premier et du second degré, en fait. Au premier degré, on comprend que c'est un objet visible, qu'on voit bien, c'est un signe distinctif. Au second degré, le gilet jaune, c'est ce que l'on met quand ça ne va pas pour signaler un problème et donner l'alerte.
Il s'en rend compte parce que quand on, la dernière manif, là, il a forcé les gens à retirer leur gilet jaune. Il force, on ferme les ronds-points parce qu'il y a des arrêtés qui interdisent d'aller sur les ronds-points. Toutes ces choses-là, c'est pour que justement le mouvement ne soit pas visible. Et le fait que les gens ils remettent leur gilet jaune sur leur pare-brise, le mouvement redeviendra visible. Et c'est ça qui est très important.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, pour l'avenir? Voilà, quelles sont vos attentes?
Moi, personnellement, je ne demande pas la démission de Macron. C'est faire revenir faire payer les grosses fortunes, faire revenir le CICE, faire revenir toutes ces choses qu'on nous a volées, qu'on a volées au peuple, que le peuple puisse avoir le gouvernement puisse avoir des comptes à rendre au peuple. C'est surtout ça qu'il y a, mais voilà. Mais comme ils veulent pas le caler, donc nous on continuera dans le mouvement. Et puis de les embêter comme ça sur les ronds-points régulièrement, ça va. En étant pacifique, c'est ça qui les embête le plus, que ce soit au niveau national surtout.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, pour l'avenir?
Moi, je souhaite que le peuple décide lui-même de sa façon d'évoluer, de sa liberté d'expression, et que les gamins puissent avoir une éducation et des soins et tout ce qu'il faut. La base, quoi. Ce que même les gens, il y a 2000 ans, ils avaient peut-être qu'on n'a plus maintenant, quoi. Moi, je pense qu'on a régressé à un stade où on est encore plus faible que l'homme de Cro-Magnon, quoi. Parce qu'on n'a plus de clan, on n'a plus rien. On est chacun pour sa gueule, quoi. T'es dans ton coin, t'es solitaire, t'es tout seul, t'es mort. Si t'as pas une famille ou machin, t'es mort, t'es à la rue. Il n'y a pas un système qui va te sauver. Avant, ils avaient un clan, ils s'aidaient entre eux, tu vois. C'est un autre monde. Et même qu'ils n'avaient rien, eh bien, il y a toujours quelqu'un derrière. Et il y a beaucoup de pays qui vivent, les Africains, tout ça, en Asie, un peu partout, ils vivent en communauté, encore en clan. Hein. Ils ne laisseront pas quelqu'un crever ou machin. Mais en France, en Europe, t'aides avec des aides, soi-disant, mais ça n'arrive pas, les aides. Tu vois bien comment c'est dans les rues. Hein. Beaucoup de mômes qui sont... Ils sont tombés là-dedans sans le vouloir, ça leur est tombé dessus, et puis voilà, ils s'en sortent pas comme ça, quoi. Après, pour les aider, ben, on n'est pas dans un système qui permet d'aider les gens comme ça, mais... Enfin, voilà, quoi.
Qu'est-ce que vous souhaitez ou vous espérez pour la suite ou pour l'avenir ?
Démolir ce système, démolir ces lobbies qui tuent les hommes, qui tuent la terre, qui tue tout. Que ce soit le pouvoir de ces lobbies, c'est insupportable. Enfin, mais c'est pas aujourd'hui, moi, parce que j'ai grandi comme ça. Donc voilà, c'est insupportable.
Dernière chose, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de la crise, et notamment en se positionnant 2 secondes à la place du gouvernement. Voilà, qu'est-ce qui ferait que vous disiez pour que ça continue et que ça grossisse, en gros, il faudrait déjà que les gens mettent leur gilet jaune sur leur pare-brise, reviennent sur les ronds-points, reviennent en manif. Mais pour sortir de l'état de crise ou de situation compliquée à vivre, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, quand on dit sortir de la crise politique des gilets jaunes ou la crise économique ?
Bah, peut-être qu'on peut essayer de répondre aux deux questions.
Ah ouais, alors la crise politique des gilets jaunes, c'est super facile, et c'est là où vraiment Macron est soit un imbécile, soit, pardon du terme, mais un gros connard, en tout cas irresponsable et indigne de sa fonction. Il avait juste qu'en décembre à dire, bah, écoutez, je vais faire un référendum juste pour poser la question, cette histoire de RIC, de fin des privilèges, mais ne serait-ce que le RIC, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de gens ou pas? Il aurait fait ça, mais ça changeait tout. Juste au moins pour vérifier que les demandes des gilets jaunes, si elles sont réellement porteuses d'une demande collective générale. C'est quand même dingue. Il n'y avait que ça à faire. C'est un outil qui existe dans la Constitution et qui est même indépendant de la 5e République, qui avait été constituée à l'époque avec le général de Gaulle. Donc c'est quand même dingue que ça, il ne le fasse pas. Faute grave, même criminelle, complètement criminelle, je pèse mes mots. Donc ça, c'était pour la crise politique. Parce que du coup, ah oui, là, tout le monde veut, beaucoup de gens veulent le RIC ou cet aspect-là. On aurait bougé. Il y aurait eu au moins un début de dialogue quelque part. Hors de question, ça n'a pas eu lieu. C'est un scandale complet. Premier problème, ça c'était pour la crise politique. Pour le côté économique, là il y a du boulot. Hein. Il est évident que de par moi, ma formation et mon univers professionnel, il est évident qu'il faut reprendre en main l'économie. Et il est certain qu'il faut reprendre en main tout le circuit monétaire et bancaire. Pour faire très court, hein, et là je vais citer Napoléon. On va finir par croire que je suis un gros gars de droit, c'est pas du tout le cas, mais j'aime l'histoire. Hein. C'est la main qui donne, qui est au-dessus de la main qui reçoit. Et dans un pays, celui qui donne l'argent, celui qui la crée, c'est la banque. Donc il vaut mieux qu'une banque qui donc émet de la monnaie qui est un bien collectif, ce bien collectif appartienne à une nation qui a une vision collective et d'intérêt général. Et certainement pas une banque qui n'est uniquement que préoccupé par son propre profit, et j'ai envie de dire à court terme, très grave, très dangereux. Donc, la création monétaire, c'est quelque chose de puissant qui permet de financer l'action publique, l'économie d'un pays. Et d'ailleurs, c'est amusant, même ironique, c'est qu'à chaque fois que notre création monétaire était nationalisée, j'entends les 30 glorieuses, la Banque de France était enfin nationalisée, ça a été la seule fois où elle a réellement été. C'est amusant, on a une prospérité économique. Parce que si on dit, mais non, mais Olivier, c'est parce qu'il fallait reconstruire le pays, alors en ce cas, le FMI, avec tous ces pays en ruine qu'il faut reconstruire, ça devrait marcher du feu de Dieu. Ce n'est pas le cas. C'est lorsqu'on a une monnaie entre les mains d'un gouvernement qui veut vraiment reconstruire son pays, qui a une vision altruiste et réellement nationale, ça marche. Et pourquoi ça ne marche plus depuis quelques années? C'est qu'en 73, la fameuse loi de l'ancien Macron, un gars qui venait de Rothschild, comme Macron, Pompidou, la loi donc Pompidou, Rothschild, Giscard, bravo Giscard, t'as vraiment ta loi, ton nom sur une loi scélérate, où on a dit désormais l'État, l'argent de sa Banque de France ne pourra plus la prendre à 0%, c'est fini, on arrête les 30 glorieuses, on va dire que ce sont les banques privées qui le prennent à zéro et qui reprennent nos États à 2, 3, 4, 5, 6, 7% selon le marché des taux qui lui-même artificiellement fixé. Ça nous a juste généré aujourd'hui un présent et un futur peu reluisant qui est 40 milliards d'intérêts de la dette chaque année. C'est juste le montant des recettes de l'impôt sur le revenu. On n'aurait pas cette navrée putain de loi. On pourrait presque dire, bah écoutez, on n'a pas 40 milliards d'intérêts de la dette à payer, on n'a pas besoin d'avoir un impôt sur le revenu pour le financer. C'est quand même dingue, hein. Donc ça, c'est le premier point, et on n'aurait surtout pas 2300 milliards de dettes. On aurait juste à peu près 15 milliards de capital remboursé par an. Rien. Et on aurait un gouvernement qui dirait, qu'est-ce que je peux faire pour l'économie? J'ai que de l'argent dépensé. Et je n'ai pas de dette. Et du coup, on n'aurait même pas l'idée de privatiser nos bijoux de famille en les bradant à des intérêts privés, les aéroports, la Française des Jeux, là, tout ce qui est effectivement autoroute. On aurait au contraire un État qui serait extrêmement présent et on serait dans une logique de plein développement alors qu'aujourd'hui on brade le pays. Enfin bref, tout ça pour dire que nos problèmes sont fabriqués. Donc je reviens au niveau politique, le contrôle des banques et de la monnaie, clairement. Une fois qu'on détient ses banques et sa monnaie, on est maître de son avenir et de son destin en tant que pays.
Dernière chose, qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de ce moment-là, de cette crise? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de cette situation?
Qui ramène déjà qui remette l'impôt sur la fortune, déjà, ça serait déjà une belle chose. Quand on voit qu'on a pu retrouver de l'argent aussi facilement en 48 heures pour Notre-Dame de Paris, et que moi je vois autour de moi des gens qui crèvent de faim et qui crèvent de tous les jours parce qu'ils n'ont rien le 15 du mois, sincèrement ils n'ont vraiment rien, c'est une aberration totale, quoi. Moi j'ai pas à me plaindre, je suis retraité, j'ai une retraite qui est assez conséquente, voilà, donc j'ai pas à me plaindre, mais je suis là pour mes amis gilets jaunes, je suis un citoyen et on doit se battre.
Réussir à démolir le système, c'est tout. Pour moi, moi, je ne suis pas pour démission Macron, je n'ai jamais, dans les manifs, jamais dit ça, parce que ce serait risquer de faire croire aux gens que ça y est, on a gagné, alors que ce serait faux. Donc ce qui peut faire sortir, c'est que tout ça s'arrête, sinon ça recommencera. Je veux dire, à la limite, là, Castaner, il se fait démissionner par rapport à ses attitudes, ils en mettront un autre. Les gens seront peut-être contents. Demain, ils vont augmenter le SMIC. Enfin, moi, je ne suis pas pour l'augmentation du SMIC, par exemple. Ça ne sert à rien d'augmenter le SMIC si les choses augmentent. Donc, pour moi, tout ça, c'est des leurres. C'est donner les petites miettes, c'est faire croire, et les gens vont rentrer chez eux, ce sera encore plus grave après, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le système. Et je suis pas anarchiste. Hein.
Déjà, moi, je pense que au niveau, faut sortir de l'Europe. Hein, déjà, ça, à mon avis, c'est le plus important parce qu'on est manipulé par l'Europe. Ça nous coûte cher, hein, les 20 milliards, les machins. Tiens, là, on est en Europe et t'as Macron qui a balancé l'année dernière 300 milliards pour l'armée française. Putain, on n'a pas une armée en France, en Europe ou quoi que ce soit. Pourquoi on doit claquer 300 milliards? 300 milliards, un budget de la France, il est à 290 milliards hein, annuel. Hein. Ils ont balancé 300 milliards alors que c'est 50 milliards par an, tu vois, sur 6 ans. Hein. Mais putain, cet argent, on n'a pas besoin pour autre chose, pour les hôpitaux, l'éducation, ou les mal lotis, ou j'en sais rien. Et ils ont balancé du fric là-dedans. Si on est en Europe, pourquoi on n'a pas une armée pour protéger à la rigueur? Mais on devrait même plus avoir peur d'être attaqué, parce qu'on devrait être intouchable, on n'a pas besoin de mettre des milliards comme ça, quoi. Et un petit pays comme nous, qu'on n'a pas de thunes, on va mettre 300 milliards déjà, tu vois. Moi, je pense que l'Europe, on n'en a pas besoin, c'est l'économie, on l'avait sans l'Europe. Déjà, l'Europe, elle a été créée par des SS, déjà, excuse-moi, tu vois, les mecs qui ont mis l'Europe en marche, et elle est dirigée par les États-Unis, hein, tout le monde le sait, hein. On était 13 au départ, il fallait une vision extérieure, ils ont mis les Américains pour donner une vision extérieure, c'était ça. Et c'est les Américains qui dirigent l'Europe, mais on va où? Voilà, quoi. Le plus gros morceau, c'est ça, quoi. L'Europe. Tu vires l'Europe, après tu libères, chacun fait son truc dans sa sauce, dans son pays, tu te libères plus vite. Parce que si tu veux faire passer quelque chose, tu dois demander à 29, là, t'as jamais de la vie. Hein, que pour le prix de la baguette, t'arriveras jamais à mettre tout le monde d'accord. Alors, des problèmes comme on a actuellement, oh là là là. Tu vois bien dans un foyer, tu veux changer un truc, rien qu'en couple, c'est chaud, alors... enfin, ouais. Yep, on a fait le tour.
Bulle et reportage, principe actif.